atque semper Virgo, Felix li porta.
Stella Maris. Une émission mariale proposée par le frère Clément Bonnou, franciscain de l'Immaculée, pour aller à la rencontre de Marie sur les chemins de l'espérance.
Bienvenue à vous, chers amis, auditrices, auditeurs de Stella Maris. Dans notre précédente émission, à l'école de Saint-Augustin, nous avons découvert Marie comme la femme de la foi. Nous avons médité cette magnifique parole de l'Évangile selon saint Luc, chapitre 1er, verset 45. « Heureuse celle qui a cru ». Saint Augustin nous rappelait alors que Marie est plus heureuse d'avoir accueilli le Christ dans son cœur par la foi que de l'avoir porté dans son sein. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Après Marie la croyante, nous découvrons Marie la mère. Mais pas seulement la mère de Jésus, car au pied de la croix, vous savez, quelque chose de nouveau se produit. Dans les dernières heures de sa vie terrestre, Jésus prononce une parole qui va traverser les siècles. Voici ton fils. Voici ta mère. Pour saint Augustin, cette scène ne concerne pas seulement l'apôtre Jean, elle concerne toute l'Église, elle nous concerne. À travers saint Jean, c'est chaque disciple que Jésus confie à Marie. Et à travers Marie, c'est une mère spirituelle qu'il donne à toute l'humanité rachetée. Aujourd'hui encore, des millions de croyants à travers le monde font l'expérience de cette maternité dans la souffrance, dans la maladie, dans la solitude, dans les grandes épreuves de l'existence. Et pour approfondir cette dimension si concrète de la maternité spirituelle de Marie, nous allons accueillir tout à l'heure comme invité le père René Agnero, qui a accompagné des personnes qui ont traversé des moments délicats, des moments de souffrance, et qui a fait lui-même l'expérience de la maternité spirituelle de Marie. Merci à Jonathan qui va nous accompagner à la technique. Nous allons faire une petite pause musicale avant d'aborder la première partie de notre rencontre. Lorsque nous pensons à Marie, nous pensons spontanément à Bethléem, à la crèche, à l'enfant Jésus. Et c'est juste. Mais pour saint Augustin, qui nous accompagne cette période, la maternité de Marie ne s'arrête pas à la naissance de Jésus. Elle s'étend à tout le corps du Christ. Or, vous savez, le corps du Christ, c'est l'Église. Et saint Augustin va écrire: Marie est véritablement la mère des membres du Christ parce qu'elle a coopéré par sa charité à la naissance des fidèles dans l'Église. C'est une intuition extraordinaire. Marie n'est pas seulement la mère de la tête, elle devient aussi mère des membres. Et pour comprendre cette maternité, il faut monter au calvaire. Tout semble perdu. Le Christ agonise. Les disciples se sont dispersés. Ils ont peur. Le monde croit assister à un échec. Et pourtant, au cœur même de cette obscurité, Jésus accomplit son dernier geste d'amour. Il regarde sa mère, puis l'apôtre Jean, et il dit « Femme, voici ton fils, puis voici ta mère. » Saint Augustin voit dans cette scène un acte fondateur. Jean représente tous les disciples. Marie reçoit une mission nouvelle, devenir mère de tous ceux qui suivent le Christ. Après l'ascension, où retrouvons-nous Marie? Au Cénacle, au milieu des apôtres, dans la prière, dans l'attente de l'Esprit-Saint. C'est dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 1er, verset 14. L'Église naissante, oui. L'Église naissante va grandir sous le regard maternel de Marie. Saint Ambroise, un père de l'Église, va dire « Marie est le type même de l'Église ». Et saint Augustin va développer cette intuition. Marie est à la fois membre de l'Église et mère de l'Église. Elle appartient au peuple sauvé, mais elle est aussi celle qui accompagne la naissance de ce peuple nouveau. Cette conviction va traverser toute la tradition. Saint Irénée appelle Marie la cause du salut pour elle-même et pour tout le genre humain. Saint Ephrem chante la mère de tous les vivants dans l'ordre de la grâce. Et Saint Bernard va parler de l'étoile de la mer qui guide les voyageurs. Saint Augustin nous rappelle Marie enfante sans cesse les croyants qui deviennent membres du Christ. Eh bien, c'est cela. Qu'est-ce que nous avons à retenir de cette belle vérité que nous présente saint Augustin principalement et tous les saints autour? C'est qu'au pied de la croix, Marie reçoit une nouvelle maternité. Elle n'est plus seulement la mère de Jésus, elle devient la mère des disciples. La maternité de Marie n'est pas un souvenir du passé, elle est une réalité vivante. Dieu a voulu que nous ayons une mère sur notre chemin de foi. Eh bien, nous allons nous arrêter là avant de retrouver notre invité du jour. C'est le révérend père René Agnero, eh bien, qui va nous donner son témoignage de sa relation avec Marie. Et pour avoir accompagné des âmes, pour avoir fait l'expérience, même dans les mouvements, la Légion de Marie, il va revenir sur tout cela. Nous allons faire une petite pause. Nous allons retrouver de l'autre côté de la baie vitrée Jonathan pour faire cette pause et retrouver le père René Agnero. Père René, bonjour.
Bonjour.
Alors, Père René, nous sommes très heureux de vous retrouver encore aujourd'hui au rendez-vous dans les studios de Radio Présence. Et c'est avec joie que nous avons parcouru avec vous votre chemin vocationnel, sacerdotal, imprégné du regard fixé sur la Vierge Marie. Je vais un peu, dans ce rendez-vous d'aujourd'hui, parler d'une manière pratique de vos missions. Vous avez travaillé avec les personnes souffrantes, et vous avez aussi dans votre pastoral de prêtre depuis plus de 35 ans, rencontrer des personnes et votre dévotion mariale, comment cela vous a aidé? La question que je vous pose, c'est au sujet du mari au cœur de la souffrance humaine. Eh bien, Père René, comment percevez-vous la présence de Marie dans l'accompagnement que vous avez eu à faire avec les personnes fragiles de la maladie.
Merci pour cette question. Je n'ai pas été aumônier attitré des cliniques ici à Toulouse, mais dans mon ministère de prêtre, notamment en Afrique, on a eu à aller en visite dans les hôpitaux auprès des malades. La première des choses que je remarque, c'est que aujourd'hui, on le perd au niveau des jeunes, mais les anciens, surtout les mamans, ont toujours leur chapelet sur elles. Toujours. À l'hôpital, vous allez rendre visite à quelqu'un, il y a toujours la mamie avec son chapelet. Pour dire que Marie est toujours présente à côté dans ces situations de souffrance. Deuxième chose, les hommes ont aussi leur chapelet dans leur poche. Et ça, ça m'a marqué. De savoir que partout et tous les jours, avoir son chapelet sur soi. Et on disait en catéchèse que si vous n'avez pas le chapelet, vos 10 doigts, les 5 doigts de chaque main constituent les grains de chapelet à méditer chaque fois. À n'importe quel endroit où vous êtes, vous pouvez méditer. Et ça, ça m'a marqué tout jeune. Et donc, je récitais le chapelet avec mes doigts, même dans la poche, mentalement, je récitais donc le chapelet. Autre chose aussi que je veux dire, c'est que je prends une histoire vraie qui s'est passée sur ma paroisse à l'époque où j'étais vicaire. Mais bien avant que je sois vicaire sur cette paroisse, je venais pour l'insertion pastorale quand j'étais diacre. Il y a une musulmane. Première de 3 épouses. Donc, elle est la première de 3 épouses avec 4 femmes d'un imam. Et cette musulmane, quand je venais à la paroisse, j'ai appris son histoire. Un jour, cette dame, pratiquement, elle virait un peu à la folie parce que les co-épouses ne la considéraient plus. Même son mari lui-même n'était plus. Donc, elle était un peu frustrée. Et son mari, semble-t-il, selon l'histoire, a demandé aux guérisseurs musulmans de la guérir parce que vraiment, elle virait à la folie, en tout cas. Une dépression immense et personne ne l'a amené à l'hôpital pour savoir qu'est-ce qui se passe. Mais elle utilisait les produits des guérisseurs, notamment musulmans, pour être guérie. Et il semble que une nuit, elle a eu une vision de la Vierge Marie de Lourdes que nous avons dans la paroisse. Pas dans la paroisse, c'est un prêtre franciscain missionnaire croate a construit notre grotte mariale. Une grotte mariale très fréquentée. Et cette dame musulmane aurait vu cette image de la Vierge Marie. Et la Vierge lui aurait dit, va dans la cour des prêtres là. Et en plus, c'est pas loin, c'est comme ici, le séminaire. Va dans la cour des prêtres, tu vas me voir là-bas. Tu vas me voir là-bas, ta maladie, tu seras guéri. Et donc, au réveil, elle vient à la paroisse et elle voit la grotte où elle ne vient jamais. Elle voit la grotte et elle voit la Vierge Marie. Les personnes tout autour qui étaient au courant de cette affaire, et cette musulmane se serait criée, voici la dame. Voilà la dame. Elle a dit en bambara, qui est la langue locale de son ethnie, Moussolo, Moussoni, Alelo. Voici la dame. C'est cette dame-là. C'est elle. Et les dames tout autour lui ont posé la question, mais qu'est-ce que cette dame a fait? Et elle va expliquer son histoire. Donc l'ancien curé, un prêtre européen, croate, donc, aurait été mis au courant de ça. Quand je suis arrivé pour mon insertion, j'ai appris cette histoire. J'ai revu cette femme et elle vient à la grotte prier. Une fois, même elle aurait dit, comme un témoignage, aux chrétiens qui étaient là, à la grotte, de dire que elle l'aurait dit en bambara, la langue locale, que cette dame que vous avez là, il ne faut jamais, jamais la quitter. Cette dame-là que vous avez, c'est le plus grand trésor que vous avez. Il ne faut jamais, jamais la laisser tomber. Elle aurait donné ce témoignage-là. Donc, voilà, si vous voulez, une histoire vraie qui montre la place de la Vierge Marie. Moi, ça m'édifie. Ça m'édifie.
Évidemment,
en tant que jeune diacre et puis ensuite prêtre, ça m'édifie. Deuxième histoire que je veux évoquer, j'ai un vieil oncle du quartier à l'époque. Lui, il est protestant. Protestant, et il ne venait pas à la paroisse. Ils ont leur culte dans leur temple. Mais il nous arrivait, nous les catholiques, de faire ce qu'on appelle des soirées d'évangélisation. Et la paroisse, l'espace le plus grand, on l'utilise pour faire cette soirée d'évangélisation. De 20h à 6h du matin, avec des témoignages, des enseignements, et on termine à 6h avec la messe. Et tout le monde vient, tout le monde, partout vient. L'histoire qu'il a évoquée, parce que j'allais le voir après, c'est lui qui dit qu'il venait par curiosité, voir un peu. Et puis, moi j'étais donc à la paroisse, en ce moment j'ai fini, j'étais prêtre, j'étais curé de la paroisse. Donc tout le monde savait que j'étais un fils du quartier, il est devenu prêtre, et il envoyait son petit-fils venir chercher, va à la paroisse, va chercher le prêtre là. Il faut lui dire, il n'a qu'à venir me voir. C'est un vieil oncle. Donc je connais bien le monsieur, je connais bien le petit et tout ça. Et le petit est venu, il m'a dit, ah bon, j'ai dit, papa dit que j'ai qu'à venir. Il dit, oui, papa dit de venir. J'ai dit, bon, attends un peu, je vais finir et puis on va aller. Et donc, je suis allé à la maison pour voir donc le vieil oncle. Je l'ai salué et tout. Et il me dit, vraiment, tu es en train de faire du bon travail sur cette paroisse. La femme là qui est dans la grotte là, vraiment, la femme là est très, très contente du travail pastoral que tu fais. La soirée que vous organisez de prière là, il y a des conversions des gens qui ne sont pas du tout de la paroisse. Même il y a des musulmans qui viennent, mais ils ne donnent pas des témoignages. Mais il y a beaucoup de conversions qui s'opèrent. J'ai dit, ben, gloire à Dieu.
Voilà.
Et lui aussi, il dit que maintenant, quand il a le temps, il vient prier à la grotte.
Magnifique.
J'ai dit, mais là où il y a le bonheur et avec Dieu, surtout avec maman Marie, il ne faut pas louper l'occasion.
Marie, consolatrice des affligés, Marie, secours des chrétiens. Père René, certains pensent que la dévotion mariale est dépassée. Qu'en pensez-vous?
Non, on ne peut pas dire que la dévotion mariale est dépassée. C'est ceux qui pensent que la dévotion mariale consiste simplement à réciter ou à égrener le chapelet qui pensent que ça est dépassé. Non, non. La dévotion mariale, d'abord, une dévotion, c'est un sentiment qu'on a vis-à-vis d'une personne ou d'un rite ou d'un culte homologué par l'Église, notamment nos saints que nous avons, donc il y a des saints pour lesquels nous avons une dévotion. Et Marie, la considération que beaucoup ont de Marie, c'est sa simplicité. Et cette simplicité illustre ce qu'elle a été par le choix de Dieu lui-même et qui a été décrit par les Écritures. Marie a écouté. Marie écoute. Marie est attentive. Marie est une maman humble. Marie est celle qui a traversé les épreuves. Je ne vois pas, humainement parlant, une maman qui aurait supporté vraiment la passion de son fils telle que les Écritures nous le montrent. Et Marie a supporté cela, recevoir son fils mort dans ses bras. Aujourd'hui, il y a beaucoup qui reviennent quand ils sont en face d'un problème ou même d'une souffrance ou d'une épreuve. Ils se rappellent de ce que la Vierge Marie a vécu et ils reviennent. Et cela montre que la dévotion mariale dépasse simplement la méditation et le fait d'égrener les chapelets et de dire les Ave Maria qui sont... La dévotion mariale
est une présence de la Vierge Marie
dans nos vies, dans le concret de nos vies.
Avec les exemples que vous avez même cités, c'est magnifique. Voilà. Alors, Père René, dommage, vous avez tellement de points que vous nous partagez là. Avant de nous quitter, je suis sûr qu'on va te retrouver encore sur les ondes de radio Présence pour parler des dévotions spécifiques et comment les réveiller, comment utiliser les moyens de grâce que Dieu nous donne et que la Vierge Marie nous propose et pour accéder au cœur du Christ. Alors, Père René, pour finir, si vous avez un mot, deux mots à dire sur non seulement votre relation avec Marie, vous en avez déjà parlé, mais qu'est-ce que vous conseillerez à des personnes qui doutent encore aujourd'hui?
Bon, c'est... Le doute est permis. Le doute est permis, mais le doute ne doit pas être une fatalité. Le doute est permis. Même un prêtre peut douter. Et dans les études, on nous parle du doute cartésien, qui n'est pas un doute négatif, mais un doute qui conduit à une révélation, donc, de René Descartes. Le doute est permis. Mais aujourd'hui, tous ceux qui doutent, même des scientifiques qui doutent, aujourd'hui découvrent dans l'incapacité de la raison de trouver solution à leurs doutes. Et ils reviennent, ne serait-ce que à la place de la Vierge Marie, cette femme que Dieu a choisie à Nazareth. Et je ne pense pas qu'elle soit la meilleure, qu'elle soit la plus belle femme de tous, et pourtant c'est elle que Dieu a choisie. C'est la première chose. Deuxième chose, ce doute-là est, normalement, ce doute est battu en brèche parce que Marie elle-même dit que, dans son Magnificat, toutes les générations me diront bienheureuses. Autrement dit, si je doute, prends l'évangile qui parle de l'exaltation de Marie dans sa prière du Magnificat, de dire que moi je suis de quelle génération, pour ne pas dire à Marie, si le mot bienheureux ou bienheureuse ne me plaît pas, de dire encore aujourd'hui, dans mon doute, Marie, sois celle qui m'éclaire pour ouvrir mon intelligence et à comprendre ce doute-là, d'où il vient. Et un doute que je peux, moi, réussir, avec ta force, avec ton intercession, arriver à dépasser ce doute. Que ce ne soit pas un doute vraiment qui me conduit à prendre des décisions, je dirais, très extrêmes, négativement parlant. Donc, le doute, quelqu'un qui doute, je lui dis simplement, considère la Vierge Marie dans son Magnificat. Nous sommes tous des générations à dire bienheureuse à Marie parce qu'elle doit intervenir dans ma vie pour m'aider à dépasser n'importe quel doute.
Voilà. Merci Père René. Nous serons très heureux de vous retrouver à un autre rendez-vous. Merci.
Merci à vous.
Eh bien, merci au Père René pour ce deuxième rendez-vous qu'il nous a donné pour parler de son expérience avec Marie. Eh bien, chers frères et sœurs, la question qui nous rejoint maintenant est simple. Que change concrètement la maternité de Marie dans notre vie? La première expérience de la maternité de Marie est souvent celle de la consolation. Eh bien, pourquoi ? parce que Marie connaît la souffrance. Elle a connu l'inquiétude de Bethléem, l'exil en Égypte, l'incompréhension, la pauvreté et surtout le calvaire. Saint Bernard ose écrire « Jamais une mère n'a souffert comme Marie au pied de la croix. » Elle comprend donc nos blessures. Elle comprend nos larmes. Elle comprend nos nuits. Pourquoi tant de chapelles hospitalières sont-elles dédiées à Marie? Pourquoi tant de malades sert-il un chapelet? Pourquoi Lourdes continue-t-elle d'attirer des millions de pèlerins? Parce que la maternité de Marie rejoint quelque chose de profondément humain. Quand tout vacille, la mère demeure. Il arrive parfois que la souffrance soit telle que nous ne trouvions plus de mots pour parler. Certains malades disent « Je n'arrive plus à prier ». Alors Marie prie avec eux. Le simple fait de murmurer « Je vous salue Marie », cela devient déjà une prière. Padre Pio, à la fin de sa vie, fatigué, malade, n'avait que deux mots. Jésus, Marie. Quelle belle prière! Eh bien, cette maternité rejoint aussi les parents inquiets, les couples éprouvés, les personnes seules, les endeuillés. Pensons à tant de sanctuaires mariaux où des milliers de cierges sont allumés. Chaque flamme représente une confiance déposée, une douleur confiée, une espérance remise entre ses mains. Eh bien, nous sommes invités à apprendre à devenir maternelles nous aussi. La maternité de Marie n'est pas seulement à recevoir, elle est à imiter. Nous sommes appelés à devenir, à notre mesure, des présences maternelles. Par l'écoute, par la patience, par la compassion, par la proximité, par la fidélité. Dans un monde souvent dur, pressé et individualiste, Marie nous apprend la tendresse évangélique. Eh bien, je voudrais conclure avec vous par cette prière. Ô Marie, Mère du Christ, Mère de l'Église, Mère donnée par Jésus au pied de la croix, accueille chacun de tes enfants. Console ceux qui souffrent, soutiens ceux qui sont découragés, visite les malades, accompagne les personnes seules, réconforte les familles éprouvées, apprends-nous à accueillir les autres avec ton cœur maternel et conduis-nous toujours vers ton Fils Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Eh bien, merci. Que Dieu vous garde et vous bénisse. Merci à Jonathan pour sa collaboration technique. À la prochaine.